Radio Pulse.
C'est cela.
Ça peut arriver qu'on soit en panne en cours de route.
Bien. On dit des bêtises quelquefois.
On fait que l'émission radio.
C'est cela, oui.
Moi je lui dis pourquoi pas aussi.
C'est cela, oui.
C'est les testicides.
Oh,
faut arrêter les testicides.
Ah,
la Radio Pulse.
Bien.
La radio qui vous nique les oreilles.
Bien.
Ce soir au programme, c'est comme d'habitude, des actus, de la musique, des interviews. Vous pouvez nous écouter aux alentours d'Alençon sur 90 FM et dans le reste du monde sur notre site internet radiopulse.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre et communiquer avec nous via les réseaux sociaux. Nous sommes sur Instagram, Discord et Facebook, si c'est pas Thibaut ça. Toutes les... Ah ouais, je t'entends pas.
Faut aller sur la page et de la locale.
Oui, il faut commenter si jamais vous voulez des albums ou des trucs cool et tout ça. Merci de l'avoir souligné, c'est cool. Du coup, toutes les actus, les albums à gagner se font comme tu l'as dit sur la page Facebook. N'hésitez pas à nous suivre pour être au courant des nouveautés et des thèmes des émissions à l'avance. Donc, est-ce que vous savez de qui on va parler ce soir ?
On va parler métal aujourd'hui.
Oui, ce soir c'est
émission spéciale métal.
Ouais.
Metal, punk, hard, tout ce qui fait mal au crâne.
Ouais, tout ce que Héloïse déteste.
Que Héloïse qualifie de bruit.
Mais non, j'aime bien. Ah, ça, j'adore ces artistes.
Ça fait mal.
Mais pas toute la journée.
Du coup, je vous propose d'écouter notre rencontre avec Pogo Car Crash Control, un groupe de metal punk français assez déjanté, avec qui on a passé une bonne interview que nous allons vous diffuser tout de suite.
Radio Pulse.
C'est cela.
Ça peut arriver qu'on soit en panne en cours de route.
Bien. On dit des bêtises quelquefois.
On fait que l'émission radio.
C'est cela, oui.
Moi je lui dis pourquoi pas aussi.
C'est cela, oui.
C'est les testicides.
Oh,
faut arrêter les testicides.
Ah,
la Radio Pulse.
Bien.
La radio qui vous nique les oreilles.
Bien.
Simon qui nous a rejoint.
Okay.
Et ensuite, Lola est arrivée... au moment où on a signé en maison de disques en 2016 pour remplacer notre bassiste qui, lui, ne voulait pas s'engager dans une carrière musicale.
D'accord.
Il voulait continuer ses études, tout ça. Donc Lola est arrivée au moment où on a sorti le EP, voilà,
okay.
En 2016. Donc la formation, elle est devenue définitive à partir de ce moment-là.
Mais c'est trop bien que ça vienne du lycée.
Ouais.
Je trouve ça génial.
Ouais, bah ça va bientôt faire 10 ans qu'on joue ensemble en fait.
Alors, comment est-ce que vous définissez votre musique ? C'est du punk, c'est du metal, c'est du metunk, je ne sais pas. Où est-ce que je le classe ?
Ouais, alors en fait, le truc, vu que c'est un groupe avec lequel on a grandi, vu qu'on joue ensemble depuis hyper longtemps, enfin ça a évolué avec notre apprentissage de la musique, je veux dire. Donc ça a énormément changé de style. Au tout début, on faisait du garage punk rock. Ensuite, on a fait vraiment du garage grunge plus crade pour aujourd'hui faire quelque chose qui s'apparente plus à du métal, quoi.
D'accord. Okay.
Donc, mais moi, je pense que en fait, ce qu'on fait, c'est du rock hardcore.
D'accord.
En français.
Ça marche.
Et quelles sont vos trois grandes inspirations ?
Alors, en tant que... Oh là là, c'est pas évident parce qu'il y a énormément de choses qui influencent le groupe.
Mm.
Je dirais que ça change aussi pas mal. Nos trois grandes inspirations...
Pour le deuxième album.
Pour le deuxième album. Mm. Deuxième album, on a vraiment écouté beaucoup de hardcore. Donc je pense qu'il y a eu, Turnstile, Retox, Code Orange. C'est des groupes qui ont été importants.
Mm-hmm.
Et... est-ce que vous avez vu une évolution entre le premier et deuxième album ?
Ah, alors je pense que le premier album, il était dans la continuité du EP. Enfin, il est pile on a trois disques, on a le EP, le premier album et le deuxième. Voilà, il est pile entre les deux. C'est notre manière d'enregistrer à la production, ça a été... Enfin, la manière de composer aussi a changé. Sur le deuxième album, j'ai fait des maquettes très poussées dans ma chambre. Et l'album était composé entièrement en maquette avant de rentrer en studio. Quand on est arrivé en studio pour faire Tête Blême, il n'y avait pas de doute sur, euh, sur les parties de guitare ou sur des fois, et on s'est dit, oh, en studio, on trouvera bien ce qu'on fera et tout. Non, les compos étaient hyper solides avant de rentrer en studio, ce qui nous a permis d'aller plus loin dans le travail de production.
D'accord.
Alors que le premier album, il a été composé un peu à la va-vite parce qu'on a fait le EP avant. Et puis surtout, on voulait pas qu'il ait un son sur Ted Blame, le deuxième album, on a arrêté de vouloir chercher un son roots. On a fait une production moderne très précise. Avant, on enregistrait en prise live, on voulait qu'on entende la pièce résonner comme Steve Albini, tout ça. Et en fait, on est revenu de cette esthétique et maintenant, on préfère plutôt les choses très, très précises et puissantes.
D'accord. Et justement, tu as évoqué les compositions. Comment est-ce que ça se passe dans le groupe? Est-ce que tous sont... Il y a quelqu'un qui vient avec quelque chose? Est-ce que vous êtes tous là? Bon, moi j'ai ça, tel ou tel truc. Ou est-ce qu'il y a une personne donnée qui fait, bon, bah moi j'ai une idée de morceau bien structurée. Voilà, comment est-ce que j'aimerais l'avoir?
Oui, c'est comme ça. Alors en fait, je suis le compositeur principal. C'est-à-dire, moi je travaille de mon côté, j'enregistre. Mm-hmm. Ensuite, je fais écouter aux autres. Et les morceaux, en fonction des morceaux qui leur plaisent. Et de la direction qu'on veut prendre, et ben on travaille le morceau, on répète, et tous ensemble après chacun s'approprie la compo et rajoute des idées, on discute beaucoup et ça change énormément, ça prend corps vraiment quand on joue en répète quoi.
Comment vous choisissez les thèmes que vous abordez? Est-ce que vous vous inspirez de vos histoires personnelles ou...
Ouais, c'est un mélange de pas mal de choses. C'est un mélange de nos histoires personnelles, de aussi les films qu'on regarde ou les livres qu'on lit. Donc c'est un mélange effectivement de l'expérience, mais en même temps de ce qu'on mange en culture, quoi. Donc de ce qu'on aime en ce moment.
D'accord.
Mais souvent le thème se dégage. À partir de la musique, on commence à comprendre un peu ce qu'évoque la musique et on s'oriente. Par exemple, pour Ted Blame, on a vu que le disque, il avait une teinte un peu gothique, death rock, et on s'est dit que ce serait peut-être pas mal d'orienter les textes vers quelque chose de un univers horrifique, fantastique, quoi.
Le groupe a assez vite été reconnu et invité sur des grandes scènes. Comment est-ce que vous avez vécu ça?
Eh ben en fait, les gens pensent que le groupe a été assez vite reconnu parce que dès qu'on a sorti notre EP, ça a pas explosé, mais ça tout a été très vite effectivement. Mais le EP il est sorti en 2016, mais en fait comme je vous l'ai dit, nous ça fait depuis 2011 qu'on joue ensemble. Donc en fait on a 11, 12, 13, 14, 15, 16, on a bien eu 5 années. Pour gravir tous les échelons, jouer devant des salles de 3 personnes, faire des tournées en Fiat Panda. Donc
ça vous a bien entraîné pour l'EP.
Ça a pas été si. Ouais, exactement. Quand on a eu notre contrat en maison de disque, effectivement, le EP ça a été facile. Il a simplement fallu choisir les 6 meilleurs morceaux qu'on avait et ça allait faire un bon disque, quoi. Mais ouais, tout s'est accéléré de manière professionnelle d'un coup, quoi. D'un coup. Ça rigolait pas, fallait envoyer du steak et être opérationnel. Donc c'était en fait ça, on a grandi très vite quoi.
Une évolution d'un coup.
Rapide.
Et quelle date a été la plus marquante pour vous, pour le groupe?
Le Hellfest, parce que c'était un concert. Enfin moi j'ai rarement été aussi pressé que au Hellfest pour jouer. On s'est levé à 7h du matin, on a installé à 8h, ensuite il a fallu attendre pour jouer à 11h. Et c'était bizarre déjà. Moi,
déjà, ouais, jouer tôt le matin comme ça.
Putain, la grosse pression.
Y a que Wildfest.
Ouais, c'est une machine, hein, tu me diras.
Ouais. Ah oui, les groupes ils sont envoyés comme ça. Mais bon, et puis on était malades, enfin je sais pas, on avait tous les deux, il y avait deux personnes dans le groupe, dont moi qui avions chopé une grippe d'été, je sais pas, un truc, on était mais malades comme des chiens, mais bon finalement le concert était super cool, il y avait plein de monde, Nous, du jour au lendemain, les métalleux se sont dit qu'on était un groupe cool. Oui. Après ce Hellfest et après la vidéo qui est sortie du live, notamment.
Okay.
Donc, ça nous a aidé, ça nous a permis de trouver notre public, ouais.
Mmh. D'accord. Et justement, au Hellfest, le public, est-ce qu'il est différent des autres scènes ou pas?
Bah ouais. Bah ouais. Les métalleux, c'est...
C'est des passionnés.
C'est des passionnés, c'est une famille à des part.
Passionnés.
Voilà, donc... Et une fois que t'es pris chez eux, c'est un public exigeant, quoi. Donc une fois que t'es pris chez eux, bah en fait, ils restent, je pense, toute la vie.
Ok.
Ça marche. Justement, le Hellfest, il y a plein de groupes et tout ça. Justement, je suppose que t'as dû rencontrer 2-3 personnalités du monde musical. Est-ce qu'il y a une collaboration que tu aimerais faire? Ou un autre membre du groupe qui t'en a parlé, la collaboration de rêve juste pour un album split ou une collab sur scène?
Ouais, alors c'est marrant parce qu'on en parle souvent avec les autres, on se dit tiens, si un jour il fallait faire un feat avec un truc intéressant de faire un feat avec un artiste, et on sait pas trop, je crois que Louis adorerait jouer avec Booba. Moi, j'aimerais bien travailler... C'est pas évident parce que... Moi, j'aimerais bien tourner avec Gojira. Mais en collaboration pure, je sais pas. J'aimerais bien faire un morceau avec Metallica. Hein.
Qui n'aimerait pas.
Rêve. On va parler un peu de... L'actualité qui n'est pas très joyeuse, la crise sanitaire, comment vous avez vécu la sortie de Tête Blême avec cette crise sanitaire?
Ah ouais, c'était chiant parce qu'en fait, quand on a commencé à entendre parler du coronavirus, en février à peu près, nous on était en train de tourner le clip de Tête Blême qui parlait justement de virus. Et du coup on rigolait, on trouvait ça trop drôle, on se disait waouh, génial, on est dans l'air du temps... C'est un putain de hasard.
Mmh.
Et en fait, bah, très vite, c'était plus devenu une blague. Mmh. Donc il a fallu repousser la sortie du disque. Il y a toute la tournée. C'est vraiment chiant parce que la tournée était super bien préparée. On devait partir 3 semaines ou 2 semaines, je sais plus, au Canada. On commençait la tournée avec 15 concerts au Canada. Ensuite, on revenait en France. Et après, on enchaînait avec l'été, faire les festivals.
Mmh.
En fait, ça aurait dû être une des années les plus cool de notre vie. Tout était prévu pour. Et bah, du jour au lendemain, tout s'est écroulé. Et il a fallu trouver des occupations pour s'occuper, quoi.
Oui.
Donc, ça a bien fait chier. Bon, maintenant, ça fait...
un an.
Ça fait un an. Et puis en plus, nous, on avait arrêté de faire des concerts 6 mois avant la crise du coronavirus pour enregistrer et travailler sur notre album. Donc ça va faire un an et demi qu'on... Enfin, on a fait des petits concerts pour la sortie du disque, mais ça va faire un an et demi qu'on n'a pas été dans une dynamique de tournée et ça me semble être une époque lointaine.
En plus, j'avais une question parce que j'avais entendu que vous voulez faire une tournée au Canada. Et je voulais savoir s'il avait pu être réalisable ou pas, mais du coup, non, c'est triste.
Et ouais, c'est la deuxième fois qu'une tournée au Canada s'annule pour nous. On est assez maudits. On y a été une fois seulement.
Je suis triste pour vous.
Mais ça va être repoussé, ça va venir. Ça va venir.
J'espère.
Justement, est-ce qu'il y a des projets pour 2021, 2022 quand même?
Oui. Ça a laissé énormément de temps pour travailler des nouvelles chansons. Donc avec les autres, on commence à travailler sur des nouvelles compos pour un nouveau disque, qui serait d'ailleurs plutôt pour 2022, je pense.
Okay.
Voilà, moi je travaille sur un projet de remix drum and bass de Pogo Car Crash Control. C'est assez rigolo. Et il y a quoi d'autre? On a éventuellement un projet rap metal qui se monte lentement avec un artiste dont je tairai le nom pour le moment.
D'accord.
Parce qu'il y en aura peut-être d'autres d'ailleurs.
Oula.
Donc voilà, il y a des bonnes choses.
Le teasing. Ça s'arrête pas.
Du coup, Olivier, je voulais aussi te poser une question vraiment fun, débile et légère. Si demain, t'étais largué sur une île déserte avec seulement tes 3 albums préférés, ce seraient lesquels et pourquoi?
Alors, c'est marrant parce que j'y ai pensé plusieurs fois à cette question. et alors, du coup, il y aurait Raining Blood de Slayer. Parce que je sais pas, c'est un des disques que j'écoute le plus depuis le plus longtemps. J'ai eu ce disque en 5e, je crois. J'avais 13 ans et je le connais tellement sur le bout des doigts, je m'y sens comme dans un lit bien douillet. Je sais pas pourquoi cette musique me détend.
Slayer, bien douillé.
Ouais, Raining Blood de Slayer. Ça c'est le premier. Le troisième, il y aurait soit Watch Me Fall ou Blood Vision de Jerry Tard.
Ok.
Parce que c'est deux disques que j'adore. À chaque fois que je les écoute, je découvre des nouvelles subtilités en fait. On pense que c'est un sale punk dégueulasse Jerry Tard, mais il avait des superbes idées de production et ses chansons aussi benettes soient-elles en fait ne le sont pas du tout. C'est vachement bien construit son truc. Et moi j'adore Jerry Tard, il m'a donné envie de faire de la musique, de m'enregistrer moi-même, de chevaucher un peu le tigre, comme dirait l'autre. Voilà. Donc et puis le troisième disque, je prendrais sans doute un album de Nirvana, je pense quand même. Hein.
Oui.
Je prendrais dernièrement je me suis replongé dans le Black Album de Metallica. Bon, c'est pas très original, mais c'est vraiment un super CD. Hein.
Et voilà.
trop synchro.
Vas-y.
C'était l'interview de Pogo Car Crash Control et maintenant on va vous diffuser le morceau Ted Blame ici de l'album du même nom, sorti en 2020 sous le label Hell for Breakfast. T'as vu mon accent anglais, ça allait cette fois?
T'as vu, c'est cool. Allez.
Surtout ne me dis pas que j'ai seulement besoin d'aimer. Ce n'est pas le débat.
Et voilà, c'était Pogo Car Crash Control. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Ça déménage.
Quoi? Ah oui, c'est vrai, il faut que j'active le micro de Thomas.
C'est mieux.
Évidemment, parce que sinon, on ne m'entend pas.
Et c'est pas plus mal comme ça.
Je t'emmerde.
Sur ce, tout de suite, nous allons vous diffuser l'interview de Aziz, a.k.a. Dealer de Metal, un YouTuber donc spécialisé métal, comme son nom l'indique, qui a fait une percée fulgurante ces 6 derniers mois. 9000 abonnés, 250 000 vues. Franchement, c'est pas mal pour un début. Allez.
Alors, peux-tu expliquer comment t'es venu l'idée de monter cette chaîne YouTube?
Alors, l'idée principale, en gros, pour être honnête avec vous, je m'ennuyais pendant le confinement. Le manque de concerts faisait ressentir. J'avais besoin de partager ma passion pour cette musique-là. Et c'est une idée que j'ai mûrie pendant le premier confinement. Et à la sortie du confinement, je me suis lancé. Je me suis dit, tiens, si je tentais l'aventure YouTube.
Ok. Des personnes qui t'ont influencé en particulier?
Alors, vu que je consomme beaucoup de gens de contenu sur YouTube, il y a des gens ouais, qui m'ont influencé. C'est plus au niveau américain, Jared Dines, ce genre de personnes-là, des gens qui ont créé le lien entre le divertissement et le métal.
D'accord. Et donc, ta première vidéo est sortie il y a maintenant 6 mois. Depuis, tu as 9000 abonnés et près de 250 000 vues. Comment tu as réagi face à cet engouement si rapide?
J'avoue que j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que vu que je suis beaucoup dans l'humain, dans le contact direct, le fait de voir des chiffres augmenter, ça m'a surpris, mais j'arrive pas forcément à mettre de visage dessus. Donc, je sais pas trop, c'est un mélange de c'est fou ce qui m'arrive, mais en même temps, en fait, j'ai envie de rencontrer toutes les personnes qui me suivent, en fait. C'est ça qui est un petit peu bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de monde, mais vu que j'arrive pas à les voir de mes propres yeux, j'arrive pas vraiment à mesurer l'ampleur des choses. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que j'apprécie que mon contenu soit apprécié et qu'il y ait des gens qui reviennent et qui soient toujours au rendez-vous, quoi.
On sait aussi que le YouTube français possède plein de YouTubeurs metal. Les premiers qui me viennent en tête, c'est Two Guys One TV, maintenant Maxwell, Metallicoa, aussi Max Waimi. Du coup, pourquoi avoir décidé de parler de metal sur le YouTube français alors qu'il y avait déjà beaucoup d'autres YouTubeurs qui le faisaient déjà?
Parce que j'avais envie de partager le metal que moi j'aimais. Et Max Waimi, c'est... Alors, quand on parle de... Quand j'ai parlé de personnages, c'est un petit peu caricatural, mais Max Waimi, il a un petit peu ce côté rentre dedans, il prend pas de pincettes, c'est vraiment brut. Lui, il est vachement axé prog. C'est pas forcément le métal que moi, c'est pas forcément mon école. Maxwell, lui, il est aussi bien calé dans tout ce qui est... Moi, j'aime bien Maxwell quand il parle de black metal, etc. Parce que même si c'est une culture que j'aime beaucoup, c'est pas forcément ce que je connais le mieux. Donc, voir ses vidéos, c'est vraiment enrichissant pour moi. Metallicoa, c'est vraiment... Hubert, c'est vraiment... Ouais, j'avais cette idée-là en tête de faire un truc un peu plus dans cette veine-là. Parce que ça me plaisait, il parle de groupes que moi j'affectionne tout particulièrement. Mmh. Et lui, il a vachement un aspect théorique de la musique que moi j'ai pas. Et j'ai pensé aux gens autour de moi qui... Bah, moi je suis musicien, ouais, je suis autodidacte, je sais pas lire la musique, je fais tout avec mes oreilles. Donc des fois je me sentais un petit peu largué, donc j'ai essayé de voir là où moi je pouvais faire ma petite différence. En parlant des groupes que j'aimais, quoi. Donc c'est, je pense qu'en alliant tous les youtubeurs métal, je pense qu'on arrive quand même à couvrir à peu près tous les styles et tous les sous-genres que cette musique propose.
Et penses-tu continuer sur le long terme?
Si l'engouement continue de grandir et que j'ai toujours l'envie et que j'arrive à avoir autant de motivation pour le faire, ouais. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que là, maintenant, de long terme, je suis pour. J'ai encore plein d'idées, j'ai envie de développer plein de choses, et j'ai l'impression d'être qu'à 4% de ce que je peux proposer.
T'inquiète, pas de soucis. On va parler maintenant des questions qui fâchent. Comment est-ce que la Covid-19 t'a impacté au sens YouTube et perso ?
Au sens perso, ça a été très dur pour moi parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis beaucoup au contact des gens. J'aime échanger, sortir, profiter avec mes amis, ma famille, etc. Le fait d'être réduit à rester chez soi, pas profiter, pour certains, aller bosser, voilà, c'est très monotone. Ça, pour moi, c'était compliqué. Après, ça m'a quand même permis de faire le point sur ma vie, sur mes choix, sur le parcours que j'ai eu jusqu'à présent. Et comme je t'ai dit, c'est ça qui m'a décidé à me lancer sur YouTube. Et je me suis dit, en fait, j'ai rien à perdre. Et au pire, c'est pas grave, c'est encore une expérience. Donc, le Covid, ça m'a peut-être un petit peu freiné au niveau émotionnel, mais ça m'a quand même donné une certaine carapace pour pouvoir entreprendre des choses. Il y a ce côté, il n'y a pas forcément le temps d'attendre pour réfléchir à 3000 choses. Il faut se lancer. Et voilà, en fait, je pense que le Covid a manifesté ça. Donc, pour moi, c'est du bon, dans le sens où ça m'a permis de réaliser que j'avais pas forcément le temps de trop rester sur Netflix ou devant mon Call of Duty, parce que pendant 2 mois, c'était le cas, et en fait, c'est juste insupportable. J'ai besoin d'échanger, de parler et d'être en interaction avec des gens, que ce soit virtuel ou en physique. Donc, sur ça, c'était cool, mais je pense que je suis j'ai une situation de vie qui permet de bien vivre le truc, quoi. C'est quand même de garder un rythme intéressant de vie et pas trop tomber dans le piège d'être complètement décalé, quoi.
Et est-ce que tu penses te faire vacciner contre la Covid ?
Oui, dans les premiers, je pense pas. Parce que
c'est impossible d'être.
Comment ?
C'est impossible dans les premiers, de toute façon.
Et c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que je suis pas une personne à risque ou prioritaire, donc je pense qu'il y a des gens qui doivent passer en priorité et c'est le plus important. Moi, oui, je le ferai, mais vraiment par avoir une bonne conscience pour protéger aussi les gens qui sont autour de moi, parce que...
Par geste citoyen.
J'ai qu'une envie, c'est pouvoir aller voir mes grands-parents sans être à 6 mètres d'eux, ce genre de truc-là, quoi.
Et que penses-tu des concerts payants en stream sur Internet ?
Que quand on est habitué à la culture américaine, c'est pas quelque chose de choquant. Moi, ça m'a pas choqué. C'est juste que ça a été hyper... Je trouve que ça a été très mal apporté pour en France. Parce que on voit ça comme une solution de secours, alors que le pay-per-view, aux États-Unis, ils appellent ça comme ça. C'est dans la culture. Et là, c'était vraiment... on vous propose ça parce qu'on n'a pas le choix, plutôt que on vous propose ça en complément. Mais en même temps, les concerts, il n'y en a pas. Donc, c'est un petit peu biaisé ce que je dis, mais je pense que c'est une bonne chose. Après, il faut que les groupes, ils arrivent aussi à proposer quelque chose d'innovant et pas juste se contenter de faire pour faire, parce qu'il faut exister. Je suis pour prendre le temps de faire les choses bien quand même, un minimum, parce que les gens, ils payent. C'est comme en live, quand tu vas à un concert, quand tu payes pour un concert, t'attends de l'artiste qui se donne, qui est un vrai spectacle. Si c'est pour voir un groupe qui joue comme dans son local de répète, moi je mettrais pas des sous dessus, quoi.
Et du coup, tu as la casquette de musicien et aussi de youtubeur, est-ce que tu penses que c'est important de supporter la culture sur Internet ?
Ouais, parce que on est vecteur de ça. Enfin, moi je sais que... Alors, c'est un petit peu une mission perso que je me suis faite, mais le but de ma chaîne, c'est du partage de culture, en fait. Alors, c'est bien précis, mais même si j'aime, par exemple, le rap ou la funk, etc., je me sentirais légitime de monter une chaîne YouTube pour faire ça. Alors que le rock, je me sens vachement proche de la scène, je me sens vachement proche de la culture, que là, je pense être un peu plus pertinent, mais... Je pense qu'il faut être vecteur de culture et faut pas que ça cesse. Et on parle de ça. Hier, le Hellfest a balancé son communiqué de presse où la lettre qu'ils ont balancée, la lettre ouverte à la ministre de la Culture, je trouve que c'est vachement bien de ce genre d'initiative, parce qu'en fait, on a besoin de la culture. On a besoin d'être en interaction avec les uns et les autres et de se sentir connecté avec une chose commune.
On va faire les questions plus légères maintenant.
Qu'est-ce que tu écoutais quand tu étais adolescent?
Adolescent, alors j'ai découvert le rock et le metal à mon adolescence, mais en fait, comme aujourd'hui, j'écoute un peu de tout, mais très grosse préférence pour la musique avec des grosses guitares, des grosses distorsions, quoi. Mais j'écoute à peu près tout. Du moment que ça me fait vibrer et qu'il y a quelque chose qui m'accroche, je ne me mets pas de barrière.
On a vu aussi que sur ta chaîne YouTube, tu avais sorti une recette des métalleufs. Tu as baptisé les métalleufs. Est-ce que l'idée d'un bouquin de cuisine métal t'intéresse?
Ouais, mais il faut que j'ai plus de recettes.
Et si tu devais décrire ta chaîne YouTube en trois mots, ce serait lesquels et pourquoi?
En trois mots? Oh, trois mots.
Ouais.
Tu demandes ça à un mec qui parle beaucoup. En trois mots, je dirais du divertissement, de l'éducation et du partage, je pense.
Ok.
C'est de très très bons mots pour une chaîne YouTube. C'est parfait. Est-ce que tu as des projets pour la suite, Aziz? Sérieux ou moins sérieux?
Balance, je suis là, en fonction de. Comme tu le sens, je prends en fonction, quoi.
D'accord. Pas de projet d'émission particulière que tu voudrais lancer sur ta chaîne YouTube, dont tu voudrais nous glisser un petit teaser?
Si, en fait, j'ai énormément d'idées. Après, moi, mon seul problème, c'est le quand et le comment, qui sont des questions que je me pose très souvent. J'aimerais mettre des choses en place, par exemple. J'avais commencé un podcast que je voulais faire tous les mois et en fait je me suis rendu compte que avoir un travail, plus avoir cette rigueur de faire une vidéo par semaine, plus avoir un podcast, etc., ça demandait une exigence et une certaine discipline et aussi un certain moyen matériel que, par exemple, des logiciels comme OBS pour faire des choses à distance, etc. C'était des choses que je ne savais pas maîtriser. Mais aujourd'hui, oui. Par exemple, un podcast, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place assez rapidement pour la chaîne, pour montrer qu'on peut allier sa passion pour la musique rock ou metal et sa vie professionnelle, et aussi pour parler, être plus connecté avec mon audience et parler de mon parcours, parce qu'apparemment, des retours que j'ai, c'est quelque chose qui intéresse pas mal de gens, et je pense avoir fait pas mal de choses, et des choses pas top, et des choses que j'aimerais que certains musiciens aimeraient éviter pour leur bien, pour qu'ils puissent développer une bonne carrière et qu'ils puissent avoir des conseils que moi j'ai pas eu quand j'ai commencé.
Et voilà, c'était l'interview de Aziz, aka Dealer de Metal. Voilà, allez voir sa chaîne YouTube, ça vole des tours. Et d'ailleurs, si tu nous écoutes, Aziz, je vais passer un morceau que tu m'as demandé. C'est Disconnected, un de son ancien groupe ou son groupe actuel, je ne sais plus, je suis désolé, avec le morceau By Your Side.
Alors après toute cette musique agressive et le beauf de lundi, hein, vous vous en rappelez de Kevin Jarret, la direction nous a imposé une rencontre avec les deux Beaumont, Maximilien et Claire, un couple de Parisiens. Vous allez nous parler, on va parler de leur misère vis-à-vis du coronavirus. Alors, comment vous organisez-vous depuis la crise sanitaire ?
Déjà, bonsoir.
Bonsoir, soyez pas si agressifs. De toute manière, sans mon DK latté, de toute manière, je ne peux absolument rien faire.
Moi, je suis plus musique calme, qui fait respirer un peu.
Ouais, parce que là, entre la musique qui crie, c'est...
C'est agressant, wow. Ça met de la négativité.
Le métal, ce n'est pas que du bruit, c'est aussi de la musique.
C'est de la négativité.
Non, c'est plein de négativité. Je trouve que les personnes qui le font manquent de talent et de reconnaissance.
Mmh. Et toi, Claire de Beaumont, peux-tu nous dire si le confinement a changé tes habitudes ?
Bah oui, déjà, depuis le confinement, je ne fume plus maintenant, je vapote, je me sens mieux. Mes poumons sont plus libérés.
D'accord. Et toi, Maximilien de Beaumont ?
Je fais pousser des tomates cerises sur mon balcon. Voilà. Oh merde, c'est la tuile, on m'a volé ma trotte électrique, putain !
Ça va aller, Maximilien ?
Non !
On peut continuer ?
Oui, parce que maintenant on se déplace en trotte électrique, c'est beaucoup mieux.
Anyway, depuis que je suis revenu de LA, je suis jet lagué.
Et du coup, on peut continuer l'interview, y'a pas de soucis.
Oui, c'est bon, c'est bon. Ça va passer, je peux m'en racheter 4 de toute manière.
Les avantages d'habiter à Paris.
Ouais, les avantages. Vous pouvez nous parler des avantages d'habiter à Paris ?
Le salaire, hein.
Ouais, le salaire et surtout, on va pas se mentir, hein. Moi, un gros avantage que j'ai découvert pendant le confinement, j'avoue, je suis un peu gaga, mais c'est mon truc à moi. At Five, tous les jours, j'ai luminothérapie, hein.
C'est quoi la luminothérapie ?
Tu te mets devant une lumière, hein.
Ouais, c'est ça. Mais tu l'expliques un peu mal, Claire. En fait, c'est plein de bonnes ondes, d'UV, tout ça. Parce qu'on est en manque de vitamines avec ça.
De vitamine D.
C'est ça. Mais de toute manière, moi, je sors tous les soirs après le couvre-feu. J'en ai rien à fiche, quoi.
C'est illégal, ça. Vous risquez une amende.
Tant pis. Je peux payer au moins 14 amendes.
Parce que vous faites quoi dans la vie ?
Mais écoutez, moi, je suis cadre commercial chez Apple. Voilà, et je ne vais pas dire combien ce que je gagne, mais je gagne énormément plus qu'un petit prolo à Radio Pulse.
Ouais, ça attaque direct, quoi.
Ouais.
Ok. Sinon, vous avez des enfants ?
Ah oui, d'ailleurs, il va falloir que je m'active, je dois aller chercher Clidorine à son cours d'aquarelle.
Putain, Claire, tu fais chier, vas-y. Prends la hybride, là, casse-toi, putain.
Ah, effectivement, vous êtes vraiment très très à cheval sur les horaires.
Ouais, mais...
Et très à cheval aussi sur l'éducation de nos enfants.
Ouais, c'est ça.
L'art, c'est important. C'est
ça. D'ailleurs, je pense que toi aussi, tu devrais reprendre un peu les études. Enfin, tu prends ça comme tu veux, hein. Mais bon, je te dis ça comme un ami. Mais faire des études dans la radio, c'est pas terrible, quoi. C'est vraiment un métier de gaucho, quoi. C'est pas terrible, reprendre les études, quoi.
Super, merci, c'est toujours plaisir. Est-ce qu'on peut se concentrer sur l'interview et le sujet du coronavirus, hein ?
Non, pas du tout. J'ai... Putain, mon iPhone, il a plus de batte. Fais chier, Claire, tu peux me l'apporter ? Putain, Claire, elle est partie, quoi. Oh, fais chier. Excusez-moi, hein, oui. Ce petit pull là. Oui. C'est du cachemire ou pas ?
Non, c'est du coton.
Putain, quel prolo. Je me casse.
Okay.
Salut, bye, ciao, loser.
Bon, bah, moi je vous propose, on va continuer cette soirée avec un morceau qui a démarré le style musical du métal en fait, hein, tout simplement. C'est Black Sabbath du groupe Black Sabbath, tout simplement, hein, ils sont pas fait chier pour le nom. Hein. C'est un album qui est sorti, c'est sorti sur l'album Black. C'est un truc de malade, ça, c'est l'artiste Black Sabbath, la musique Black Sabbath sur l'album Black Sabbath. Ok, d'accord. Non, mais ça va. Allez, c'est parti, on écoute ça.
Radio Pulse.
C'est cela.
Ça peut arriver qu'on soit en panne au cours de route.
Bien. On dit ces bêtises quelquefois.
On fait que l'émission radio.
C'est cela, oui.
Moi je lui dis pourquoi pas aussi.
C'est cela, oui.
C'est testicide.
Oh.
Faut arrêter le testicide.
Ah.
La Radio Pulse.
Bien.
La radio qui vous nique les oreilles.
Bien.
Et voilà, c'était Black Sabbath. Le titre Black Sabbath de l'album Black Sabbath. Je m'en mets toujours pas de ce choix de chanson en fait.
Compliquer la vie. Hein.
Ouais, pourquoi pas. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple?
Mais voilà, parce que c'était l'époque et parce que c'était plus simple comme ça, mon jeune ami.
Ouais, des mecs qui se prennent pas la tête par contre, c'est Metallica. Donc tout de suite, on va passer The Unforgiven de Metallica pour clôturer cette émission. C'est de la locale spéciale musicale.
Spécial métal.
Spécial métal. Alors, sorti sur l'album Black Album en 1991, ça commence à faire un peu long maintenant, sur le label...
sur le label... Le mec juge sur le label Elektra Records.
Elektra Records, ouais, et Vertigo Records, à l'époque. Voilà. Donc voilà, Metallica The Unforgiven.
Maintenant, c'est Black N Records, le label de Metallica.
Man.
Nous battons des œufs et cuicui, ils sont durs.
Stop.
Ce qui me détruit, c'est que tu as choisi cette musique juste pour le... Ah, je te hais, alors qu'il y avait tellement plus de morceaux à mettre.
C'est Louise qui a choisi, c'est pas moi.
Non, c'est faux.
Menteuse.
C'est totalement faux.
Menteuse, tu voulais Metallica.
Non.
Oui, mais pas ce morceau de Metallica.
Héloïse voulait Metallica, sûr et certain. Mais par contre, c'est toi qui as choisi Unforgiven, Thomas.
Okay,
you are the problem.
Ok, j'avoue. Bon, les gars, il est 57.
Les gars et les filles.
Les gars et les filles.
Je viens de le dire tout à l'heure.
Les filles, je suis toute seule.
Tiens, pendant que je suis là à l'antenne, mettez un masque, gel hydroalcoolique, profitez de chez vous pendant que c'est le couvre-feu. Voilà. Alors, le message de l'aide
chez vous pendant le couvre-feu.
Super.
Mon message, tu sais, de prévention pour le Covid est aussi bancal que mon lit. C'est-à-dire que c'est un clic-clac quand il y a un pied qui... Tu fais la gueule là qui est atrophié. Bon, bref, je vais arrêter de parler de ma vie.
Éclaté en fait.
Oui, tout à fait.
Ok, d'accord.
Pour ceux qui n'ont pas
compris. Bon, bah, je pense
moi je dis bon week-end. Hein.
On dit bon week-end ?
Ouais.
Bon week-end.
Enfin, bon week-end, pas du tout, à c'est demain.
On est tellement fatigués.
On est crevés de ouf.
Ça, c'est Thomas, il veut déjà être en week-end. Bon, allez, à demain.
À demain.
À demain.
Radio Pulse,
c'est cela.
Ça peut arriver qu'on soit en panne en cours de route.
Bien. On dit des bêtises quelquefois.
On fait que l'émission radio.
C'est cela, oui.
Moi je lui dis pourquoi pas aussi.
C'est cela, oui.
C'est l'esthéticide.
Oh,
faut arrêter l'esthéticide.
Ah,
la Radio Pulse.
Bien.
La radio qui vous nique les oreilles.
Bien.
Oh, I'm a side.